Salut les parents modernes et bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. Est-ce qu'on devrait être inquiet si nos enfants ont tendance à mentir et à voler? Aujourd'hui, on a un sujet vraiment intéressant parce que je pense que ça concerne tout le monde, hein? Je pense qu'on passe tous par là un jour ou l'autre. On a tous déjà menti à nos parents, à nos amis. On ment peut-être encore parfois à nos enfants. T'sais, du genre... Maman, est-ce qu'on va pouvoir aller au parc plus tard? Puis tu sais très bien, tu sais, que vous irez probablement pas parce que ça te tente pas, puis c'est full correct, parce que t'as eu une grosse journée, puis là, tu sais, de répondre à ton enfant, oh, on va voir, en sachant très bien qu'on verra pas, là, la décision est déjà faite. Fait que oui, ça nous arrive, nous aussi, de mentir. Mais donc, quand nos enfants le font, ça se peut, surtout, là, tu sais, vers 4, 5, 6 ans, c'est comme, oh, un nouveau comportement, ça fait peur, ça se peut que le mode panique s'enclenche un peu rapidement, parce que évidemment, on veut prôner l'honnêteté, fait qu'on veut que les enfants en aient, puis probablement parce que ça fait mal de se faire mentir en pleine face, parce que les enfants le font sans filtre, ils le font vraiment naïvement, puis tu sais, c'est comme très évident quand nos enfants, souvent, là, quand nos enfants nous racontent des mensonges, on le sait, tu sais, puis on a vraiment envie de leur répondre « Hey, tu me prends-tu pour une valise? » Mais pour eux, là, ils ont vraiment l'impression qu'on va les croire. Ils veulent qu'on les croie parce que il y a cette relation de confiance qui est installée. Donc, je pense que c'est important de comprendre vraiment profondément le pourquoi. Pourquoi les enfants mentent? Tu sais, c'est quoi leur motivation? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est inquiétant? Mais surtout, comment intervenir dans ce genre de situation-là pour éviter justement de briser le lien de confiance, pour éviter de briser la connexion qu'on a avec nos enfants? Alors, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Depuis l'entrée à la maternelle de ma fille, qui va bientôt avoir 6 ans, elle a commencé à nous mentir. Ben, pas qu'elle nous mentait pas avant, là, mais les mensonges étaient un petit peu plus évidents, mettons. Puis là, ben, vu qu'on n'est pas là pour voir ce qui se passe à l'école, puis que ça brasse un petit peu plus, tu sais, puis qu'il y a un peu plus de changement. Le milieu scolaire, c'est vraiment différent que le milieu de la structure scolaire, c'est différent qu'une structure de garderie où est-ce qu'il y a un adulte pour 8 enfants ou pour 10 enfants. Là, c'est il y a beaucoup d'enfants dans une cour d'école le matin, par exemple, ou le midi, ou même dans la classe, c'est un ratio un peu plus de 16-17 enfants pour un adulte. Donc, c'est sûr que quand mon enfant arrive le soir puis qu'elle me raconte des mensonges comme, mettons, que ses amis lui ont fait mal à l'école ou « Ah, regarde, mon amie, elle m'a donné ça », tu sais, puis elle monte un beau porte-clés, mais je le sais pas, puis que dans le fond, elle l'a volé ou elle l'a pris ou elle l'a trouvé à terre puis elle l'a mis dans ses poches, tu sais. C'est un peu plus inquiétant, puis c'est un peu plus difficile de savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, tu sais. Puis évidemment, quand que je demande à ma fille, c'est pourquoi t'as pris ce porte-clés, mettons qu'elle me dit là, tu sais, ah, je l'ai trouvé par terre dans la cour d'école. Elle sait là que les choses qui sont par terre dans l'école ou dans la cour d'école, ça appartient probablement à quelqu'un, il y a quelqu'un qui l'a échappé puis qui va être bien content de le retrouver, tu sais. Mais bon, ma fille a des limites cognitives comme tous les enfants de 5-6 ans. Et donc, quand on lui demande pourquoi, sa réponse est tellement simple, c'est genre « parce que je trouvais beau ». Ben oui, évidemment, je la crois, je crois aussi qu'il n'y avait pas vraiment d'autre intention que ça. Elle s'est pas dit « ah, je vais voler ça pour faire chier mon ami, ou pour faire de la peine, ou pour être plus haute, ou pour faire réagir mon parent ». Tu sais, elle, profondément, ma fille, parce que je la connais, puis je dis pas que c'est tous les enfants sont pareils, mais la mienne, quand elle me dit que c'est parce qu'elle trouvait beau, je sais que c'est vrai, tu sais. À son âge, avant l'âge scolaire, comme je le disais, ben les enfants sont vraiment centrés sur eux. Ils ont des limites cognitives qui font qu'ils ont beaucoup de difficultés à se mettre à la place de l'autre, à projeter ce que l'autre va ressentir, à réfléchir à ça. Tu sais, ah, si je fais telle action, qu'est-ce que l'autre va ressentir? Donc, à anticiper les conséquences de leurs gestes. Fait qu'ils agissent impulsivement en pensant à eux, puis ils réfléchissent après. Oui, ils regrettent après. Une fois que l'adulte est intervenu souvent, tu sais, puis qu'il a fait penser au fait que, mais t'as-tu pensé à l'autre comment il allait se sentir? Puis là, ils réfléchissent, puis ils sont comme, ah oui, c'est vrai. Là, ils sont capables, tu sais, après coup, ils sont capables de dire comme, ah ouais, c'est vrai, mon ami a dû avoir la peine, c'est pas ça que je voulais pas y faire de la peine. Mais sur le coup, quand c'est arrivé, ben, il a pas pensé à ça, puis ça, c'est normal. Ça fait partie d'un développement neurotypique attendu. Puis après ça, ben, vers 6, 7, 8 ans, dépendant du rythme développemental de chaque enfant, puis ça, du tempérament, puis de comment l'enfant est élevé aussi, ben il arrive, l'enfant a souvent à mieux raisonner, à réfléchir avant d'agir, à penser aux conséquences de ses gestes, penser à ses paroles avant de les dire, pour éviter de blesser les autres, pour éviter que ça ait des conséquences. Pas toujours, mais un petit peu plus souvent, comme moi ça commence à arriver un petit peu plus souvent, là, ma fille qui va avoir 6 ans, qui, par exemple, au lieu d'un peu narguer sa sœur sans vraiment le vouloir, puis vraiment sans le vouloir quand je le dis, parce que elle réfléchissait pas avant aux conséquences que ses paroles pouvaient avoir. Donc, par exemple, si elle disait « Moi, je vais passer une journée avec maman aujourd'hui, Margot va aller à la garderie », ben, elle fait pas ça dans le but de blesser sa sœur, elle fait ça parce qu'elle est tellement contente, mais quand elle le disait, nécessairement après ça, sa sœur avait de la peine, et là, ça créait une crise, puis là, Eleanor, elle réalisait comme « Oups, là, j'ai dit quelque chose, puis ça l'a provoqué une réaction chez ma sœur, puis c'est pas ça que je voulais pas y faire de la peine. » Donc, elle a, par l'expérience, à force de pratiquer ce genre de situation-là, elle a très bien compris que, ah, faut pas que je dise ça fort devant ma sœur. Aujourd'hui, je suis chanceuse, je passe une journée avec ma mère, puis je suis super contente, fait qu'à la place, je vais dire dans son oreille, dans mon oreille à moi, en fait, « Maman, aujourd'hui, on passe une journée ensemble, hein? » Tu sais, elle est comme contente, mais elle... Puis, je vais pas le dire à Margot parce que ça va lui faire de la peine. Elle le nomme, elle comprend, elle commence à être capable d'anticiper puis de prévoir la réaction de l'autre parce que c'est arrivé à maintes et maintes reprises. Mais à un moment donné, ça va évoluer tout ça, puis là, ça va être d'une autre profondeur. Là, mon enfant va être capable, sans nécessairement avoir vécu l'expérience, hein, parce que ça, là, c'était une expérience qui a été répétée souvent de narguer sa sœur sans le vouloir, mais à un moment donné, ça va être plus évolué. Donc, elle va être capable de réfléchir à « Ah, si je dis à mon ami qui est conne, ben ça va lui faire de la peine, même si c'est jamais arrivé encore que j'utilise cette parole-là, c'est pas une bonne idée, tu sais. » Bon, mais on n'est pas encore rendu là! Puis ça, souvent, ça va arriver vers 7-8 ans, peut-être même plus tard, ça se peut, tu sais, dépendant du développement de votre enfant, mais généralement vers l'âge scolaire, 7-8 ans. Bon, fait que là, ça, c'est ma fille et ses mensonges, comme je disais. Tu sais, quand qu'elle me dit un mensonge, par exemple, où est-ce que t'as trouvé le porte-clés, ça peut dire « Ah, c'est mon ami qui me l'a donné », quand, en fait, tu sais, elle arrive avec un cadre laminé d'un chat ou un menu en plastique de café, tu sais, que clairement, elle a pris ça à son école, probablement dans le coin maison, là, tu sais, le coin petite maisonnette avec la cuisine. Mais elle me dit que ah, elle a trouvé ça par terre dans la cour d'école. Tu sais, ça, je le sais que c'est pas vrai. Je sais que c'est un mensonge. Puis elle me dit ça parce qu'évidemment, elle veut pas se faire chicaner. Puis quand je lui demande pourquoi elle l'a pris, ben c'est parce qu'elle l'a trouvé beau. Puis elle finit par me le dire que c'est parce que... où est-ce qu'elle l'a pris, tu sais. Parce que je dis, ben va falloir le remettre où est-ce que tu l'as pris. Parce que, tu sais, si c'est dans la cour d'école, on va le remettre dans la cour d'école parce qu'il y a quelqu'un qui va chercher son corps de laminé. Puis là, ben elle finit par me dire, ben ok, non, c'était dans ma classe. Puis je vais vous expliquer un peu plus tard qu'est-ce que j'ai fait dans les situations où est-ce qu'il y avait des vols comme ça, parce que là, on mixe mensonges et vols. Mais tout ça pour dire qu'il existe plusieurs types de mensonges chez les enfants. On va commencer, on va focusser sur les mensonges, parce que c'est souvent ça qui prend plus de place, parce que les deux sont souvent reliés. Les enfants ont la chance d'avoir une accès, en fait, à une imagination qui est beaucoup plus fertile que la nôtre, puis ça, je vous apprends rien. Mais ça peut arriver d'entendre des mensonges... ou je dirais peut-être plus des inventions, plus ou moins farfelues, inspirées de choses qu'ils vivent au quotidien. Puis ça, on va pouvoir l'observer chez les enfants à partir de 2, 3, 4 ans, mais qui peut perdurer chez les enfants de 5, 6 ans. Donc, par exemple, Margot, ma plus jeune, qui a 4 ans, ça va arriver des fois qu'elle va me parler de son chat Réglisse, ou même elle va changer le nom des fois de son chat, en disant « Moi, mon chat Réglisse m'a graffiné sur le bras, c'est pour ça que j'ai une graffine ici. » Alors qu'on n'a pas de chat. Mais ça se peut que la veille, moi, je lui ai montré une cicatrice d'une graphine très profonde que j'ai effectivement sur mon bras qui a été faite par mon chat quand j'étais plus jeune. Ou peut-être que le mensonge peut venir d'un ami qui a vécu quelque chose, d'un ami à la garderie qui a raconté quelque chose, ou un adulte. Donc, pour eux, là, avant l'âge de 4-5 ans, on se rappelle, c'est très difficile de séparer la fiction et la réalité. Donc, une histoire inventée peut momentanément devenir la vérité de ton enfant. C'est pas un mensonge. C'est une fantaisie, puis ça peut être en fait hyper riche pour son imagination, sa créativité, pour son développement d'intelligence sociale. Un peu le même principe que des amis imaginaires. Hein? Un ami imaginaire peut servir à un enfant à réfléchir à différentes situations sociales qu'il a vécues, à réfléchir à différentes solutions qu'il aurait pu faire ou à traiter de l'information sur une situation qui s'est passée en revivant la situation avec son ami imaginaire, ou tout simplement à aider l'enfant à passer à travers une situation qui a été déplaisante, une situation qui lui est arrivée, puis ou tout simplement peut-être tourner la page. On le dit souvent, le jeu, c'est une grande thérapie. Le jeu permet aux enfants de justement reproduire des situations comme ça qui ont été insécurisantes, qui leur ont fait peur, dans lesquelles ils se sont sentis inconfortables, pour le revivre, pour comme s'apaiser, puis normaliser tout ça, puis un peu revivre les émotions, pour faire comme « Ok, c'est correct, maintenant je suis en sécurité, tout va bien, tout a bien été, bon, voici ce qui est arrivé, voici ce que j'aurais pu faire la prochaine fois, etc. » Donc, les amis imaginaires, puis les histoires farfelues inventées, c'est vraiment pas dangereux, au contraire. Ensuite, il y a aussi le phénomène évidemment de qu'on peut rapidement comprendre et voir, j'ai peur de me faire chicaner. J'ai peur de me faire chicaner parce que j'ai fait une niaiserie, donc je vais dire que c'est pas moi. Comme ça, je vais m'en sortir gagnant. Hein? Sauf que les enfants, ce à quoi ils pensent pas, c'est que nous, les parents, on le sait, on est capable de détecter ces mensonges-là, tu sais, la plupart du temps. Bon, peut-être pas toutes, mais on connaît assez nos enfants pour se douter de la véracité des faits ou pas. Ou peut-être que l'enfant, il a honte de ce qu'il a fait, peut-être qu'il se sent coupable, puis là, ben, il veut pas décevoir son parent, il veut pas décevoir son ami, il veut pas décevoir son enseignante, il veut peut-être pas, peut-être que c'est trop difficile pour lui, justement, vivre cette culpabilité-là, parce qu'il est pas confortable à naviguer dans ses émotions négatives pour X, Y raison, donc il peut aller dans un mensonge. Ça peut arriver aussi d'entendre des histoires qui sont plus réalistes, plus alarmantes. Ça va arriver quand les enfants vieillissent un petit peu, ou parce que, supposons, là, je sais pas moi, maternelle 5 ans, on commence à aborder la sexualité, les parties du corps, tout ça. Mais souvent, c'est pas rare qu'on va voir le lendemain, 2-3 jours plus tard. Puis là, des fois, quand les parents sont pas informés qu'ils font l'éducation sexuelle à la maternelle, ce qui est tout à fait normal en passant, soit dit en passant, le plus tôt le mieux. J'ai une formation sur le développement psychosexuel, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment important d'en parler tôt. Mais bref, ça pour dire que ça se peut que si l'enseignant apporte l'éducation sexuelle à la maternelle, puis là, l'enfant arrive puis il dit comme « Hey, mon ami, il m'a montré son pénis à l'école. » Puis que là, c'est inquiétant, hein? Pour moi, vite de même, surtout si c'est relié au fait qu'ils en ont parlé à l'école il y a 2 jours, puis que là, tout à coup, il y a une situation qui arrive, ça se peut que ça soit de l'exploration. L'exploration d'une réaction chez le parent ou chez le prof, parce que ça se peut que le prof ait dit comme là, ça c'était partie intime, on montre pas ça aux autres. Fait que là, il s'invente une histoire comme, tu sais, mon ami m'a montré son pénis, puis là, c'est partie intime, qu'est-ce que va dire mon parent? Donc, clairement, pour moi, c'est un enfant qui se questionne sur un sujet précis, qui veut avoir l'avis du parent. Il veut peut-être vérifier qu'est-ce que son parent va répondre, comment son parent va réagir. Peut-être qu'il va vérifier si, est-ce que chez nous, c'est une notion de bien, c'est une notion de mal. Puis, bon, ça, c'est très émergent chez les enfants, la notion de bien et de mal avant l'âge scolaire, encore une fois. C'est peut-être une curiosité devant une situation qui est nouvelle, puis qu'au lieu de se poser des questions ou de poser des questions aux adultes, ben, ce qui leur vient naturellement, c'est de s'approprier une situation qui n'est pas arrivée ou peut-être qui est arrivée à un ami, qui arrive avec ça à son parent. Et là, je dis pas là que de toujours penser que votre enfant est en train de vous mentir, que c'est toutes des inventions de toutes pièces, c'est vraiment pas ça que je dis, mais on vérifie auprès de l'école, on vérifie auprès du milieu de garde, on peut poser des questions ouvertes aussi à notre enfant dépendant de son âge. À partir de 4 ans, 5 ans, on peut poser des questions ouvertes sans toutefois donner des suggestions de réponse. Parce que là, on pourrait dire « Ah ouais, ton ami t'a montré son pénis ou dans la toilette. » Mais c'est sûr que votre enfant va répondre oui. Puis là, ça vient un peu confirmer ce que tu pensais. Puis peut-être ça va venir appuyer un peu trop la fausse vérité que tu es en train de te créer dans ta tête, ton scénario que tu es en train de te créer dans ta tête alors que c'est même pas arrivé. Mais peut-être que c'est arrivé. Donc, on veut aller vérifier. On veut aller vérifier auprès du service de garde et tout ça. Et on pose des questions ouvertes. Ah ouais, ça s'est passé où? Puis t'as fait quoi? Puis les adultes, ils étaient où? Des fois, juste en posant des questions ouvertes comme ça, on peut clairement voir dans les réponses que, ah ok, tu sais, c'est pas tout à fait la vérité. À un moment donné, Margot est arrivée, puis elle m'avait dit, ah, aujourd'hui, mon éducatrice m'a chicané vraiment fort, puis elle m'a mis en punition. Toute la journée, là, c'était vraiment pas le fun, puis, tu sais, elle me parlait bête, elle m'a dit que qu'elle me détestait, puis, bon, connaissant mon enfant et la situation dans laquelle on était dans ce milieu-là, le milieu dans lequel elle ne fréquente plus, soit dit en passant, tu sais, il y avait vraiment un inconfort. Moi, j'étais vraiment inconfortable, puis, tu sais, c'est pas pour rien que mon enfant va plus là, puis je me disais, c'est plausible. En fait, c'est plausible, qu'est-ce que mon enfant raconte? Alors, je lui ai posé des questions. Ah ouais, puis, ok, qu'est-ce qui s'est passé pendant la punition? Raconte-moi, parce que moi, ça m'intéresse. Puis là, elle m'a dit, ben, elle m'a mis dans la laveuse. Puis là, elle a parti la laveuse. Puis là, j'ai fait comme, bon, ok, tu sais, vraiment, clairement, ça, c'est pas vrai, là. Tu sais, il y a peut-être une partie de véracité là-dedans, mais pas toute, là. Tu sais, clairement, mon enfant a pas passé sa journée dans la laveuse, là, tu sais. Fait que ça veut pas dire que les réponses de nos enfants vont toujours être tirées par les cheveux comme ça, mais des fois, on le sait tout de suite par les réponses de nos enfants, si c'est la vérité, si ça concorde ou pas, puis après ça, on pose des questions, on va vérifier dans le milieu. Une autre raison derrière le mensonge ou le vol, ça peut être tout simplement une façon d'avoir de l'attention, d'avoir un lien avec le parent, d'avoir un lien avec l'enseignant ou avec l'ami. Dépendant des enfants, il y a des enfants qui ont des très forts besoins de connecter, que c'est vraiment c'est un besoin qui est très, très, très important et que donc, oui, ils peuvent aller dans les mensonges pour se rendre intéressants, surtout à l'âge scolaire, pour avoir de l'attention, pour avoir un petit moment privilégié. Pourquoi? Parce qu'il comprend bien assez vite en voyant les autres autour de lui avoir des petits moments seul à seul avec l'adulte pour x, y raison. Fait qu'un enfant pourrait aller voir son parent en pleurant en disant « Mon frère m'a tapé! » Alors que dans le fond, là, c'était elle ou c'était lui qui a comme provoqué, qui a agacé son frère dans le but que le frère, peut-être, oui, soit un peu brusque, mais tu sais, ça n'a pas besoin souvent, peut-être juste un petit accrochage, puis là, c'est, ça y est, mon frère m'a tapé, tout ça pour que le parent réconforte. C'est très fréquent dans les fratries, justement, c'est très fréquent s'il y a un nouveau bébé dans la famille. Et c'est très fréquent aussi si, par exemple, le frère, là, mettons que t'as un enfant qui est à la garderie, puis que là, le frère ou la sœur vient de rentrer à la maternelle, puis c'est difficile, c'est un changement qui est difficile, on a l'impression d'observer des régressions, notre enfant vit un peu d'anxiété de séparation, bref, il y a des comportements à l'école qui fait qu'on donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention à notre enfant plus grand, ça se peut que le petit réagisse devant cette situation-là, puis que lui aussi, il veut plus d'attention, fait qu'on pourrait voir à ce moment-là l'opposition augmenter, on pourrait voir une impression que notre enfant régresse. On pourrait voir notre enfant demander un peu plus d'attention par certains comportements qui étaient plus là puis qui reviennent tout soudainement, comme frapper, crier, faire des crises. Fait que ça se peut aussi, sinon, si ça fonctionne pas, que l'enfant aussi tombe dans les mensonges, l'exagération, le vol d'objets pour avoir, parce que ça va apporter, oui, de l'attention du parent, même si c'est de l'attention négative, même si c'est pas agréable, c'est quand même de l'attention, et souvent le gain de cette attention négative-là est beaucoup plus fort que de ne pas en avoir du tout. C'est à quel point les enfants ont besoin de nous, de notre présence, de notre sécurité, de notre chaleur, d'avoir notre attention, c'est super important. Avec les enfants, si par exemple il y a un bébé, dans un nouveau bébé ou un bébé, tu sais, un enfant en bas de 2 ans qui demande un petit peu plus de temps, ça se peut que votre enfant se dise « Ah, si maman est très occupée, mais que mon petit frère se blesse ou que mon petit frère il est malade, ben lui, il y a un moment collé avec elle. » Par exemple, je sais pas moi, mon frère, là, la nuit dernière, là, il avait la gastro, il toussait beaucoup, il a dormi dans le lit de maman. Puis elle s'occupe de lui, elle berce, elle lui fait des câlins. Mais moi aussi, j'ai envie de ça. Moi aussi, j'ai envie d'avoir un moment de proximité avec ma maman. Puis je ne sais pas comment lui exprimer, hein, parce que j'ai 3 ans, 4 ans, ou même 5 ans. Mais je ne sais pas comment l'exprimer. Je ne sais même pas ce que je ressens. Mais ce que je sais, c'est que j'ai envie, moi aussi. Puis ben, j'ai déjà essayé plusieurs choses. J'ai déjà essayé d'être plus excitée, de ne pas écouter les consignes, de taper mon frère. Mais ça ne fonctionne pas, puis c'est pas agréable. Fait que peut-être si je devenais victime à mon tour. Peut-être que si moi aussi je suis malade, ou peut-être que si moi aussi je dis que je me suis fait frapper, que mon frère m'a fait mal, alors c'est une possibilité à tenir en compte. Hein? Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est ça. Peut-être que votre enfant est malade pour de vrai, peut-être que votre enfant s'est fait frapper pour de vrai, mais juste garder en tête que c'est une possibilité si c'est fréquent. Après, si ça arrive une fois de temps en temps, on peut faire comme si c'était, tu sais, on leur fait confiance, on fait confiance à nos enfants, mais si c'est quelque chose qui arrive fréquemment, on peut alors se poser ces questions-là. Puis là, je le sais là, que vous avez hâte que je vous donne des pistes, puis que je vous donne des solutions. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit, Mélanie, maintenant qu'on sait un peu plus les origines, les raisons pour lesquelles les mensonges arrivent ou le vol arrive? Mais là, vous me voyez venir, hein? Ça fait un peu plus que 20 minutes que je jacasse! Puis j'essaie toujours de garder mes podcasts en autour de 20-25 minutes, parce que je le sais que c'est ça, que vous êtes pressé, que c'est ça qui est le plus pratique, puis que vous êtes sur la route, tout ça. Donc, je vais être vraiment, vraiment plate. Je vais péter votre bulle, mais je vais être obligée de vous dire qu'on va continuer la discussion la semaine prochaine. En attendant, essayez de réfléchir à ça. Essayez quand vos enfants vous racontent des petits mensonges, si vos enfants volent, essayez de voir, essayez de noter c'est quelles pourraient être les raisons possibles. Puis après ça, la semaine prochaine, quand je vais vous arriver avec des solutions, ça va être vraiment rapide et efficace pour vous de cibler les solutions qui s'appliquent le plus à vous. En même temps, ça va faire travailler votre patience. Et moi, ben, je vous souhaite à la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle semaine. À mardi prochain. Tourlou.